Merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha, la radio lusophone en France. Vous écoutez plus précisément l'Alpha 10-13. Il est l'heure de votre rubrique mensuelle de santé, la santé d'abord. Je suis aujourd'hui en compagnie du docteur Sébastien Gallien. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de maladies infectieuses au CHU Henri Mondor à Créteil. En plus d'être praticien hospitalier, vous êtes aussi professeur des universités. Je suis en compagnie d'Élise Del Camino. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la coordination de aide, précisément dans le pôle Est Île-de-France. Et enfin, nous sommes avec Suzette Fernandez, notre collaboratrice santé de Radio Alpha. Bonjour.
Bonjour à tous.
Nous allons aujourd'hui, en cette journée mondiale de lutte contre le sida, tenter de répondre aux doutes et aux questions que peuvent se poser nos auditeurs et auditrices ici sur Radio Alpha. La première d'entre elles est très simple. Qu'est-ce que le VIH? Qu'est-ce que le sida? Et quelle différence?
Eh bien, le VIH, c'est le nom du virus de l'immunodéficience humaine, qui, quand il n'est pas traité, entraîne progressivement, sur des durées variables, en fonction des personnes qui portent le virus, une diminution des défenses immunitaires. Donc, le système immunitaire, c'est tout ce qui, dans notre corps, permet de se défendre contre les microbes. Et en particulier, il utilise les globules blancs. Et certains globules blancs, qu'on appelle les lymphocytes, et les lymphocytes CD4, sont la cible du virus, et qui, à terme, diminuent. Et donc, le sida, ce qu'on appelle le sida, qui est le syndrome d'immunodéficience humaine, c'est la survenue de maladies, essentiellement des infections dites opportunistes qui profitent de la baisse de l'immunité, de l'immunodépression pour survenir. Donc le sida, c'est la phase, je dirais, terminale ou finale de l'infection par le VIH.
Et en même temps, sa phase la plus célèbre.
C'est celle qui, en fait, est symptomatique le plus souvent et célèbre, oui, malheureusement, parce que c'est comme ça qu'on a découvert, ou plutôt a été décrite au début des années 80, les premières personnes malades.
Quels sont les symptômes, justement, du VIH?
Alors, les symptômes du VIH, très souvent, il n'y en a pas. Pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, alors assez fréquemment au début de l'infection, donc dans les premiers jours, les premières semaines, la phase dite de primo-infection, donc le début de l'infection, c'est des symptômes qui sont le plus souvent pas très spécifiques, une sorte de grosse grippe, d'angine, de boutons, de diarrhée, tout ça survenant dans un contexte où les personnes ont été exposées, et puis on reviendra probablement sur les méthodes, les moyens d'exposition, et donc ça doit évoquer le diagnostic. Et puis ça disparaît, le plus souvent ça disparaît, parfois il y a des formes graves, mais voilà, c'est un peu comme un gros virus. Et puis ensuite, pendant des années, il n'y aura rien. Avec des gens qui vont parfaitement bien. Et apparaît petit à petit la destruction du système immunitaire, avec comme manifestation un peu de fatigue, des ganglions, parfois des petites infections, mais qui sont mineures. Et ensuite, les symptômes, ce qu'on appelle effectivement le sida, c'est des maladies infectieuses qui n'ont rien de spécifique du sida, qui se voient dans d'autres cas d'immunodépression, mais qui surviennent chez des gens justement qui ne sont pas connus pour avoir un déficit de l'immunité. Et ça, c'est des infections pulmonaires, cérébrales, cutanées, certains cancers, cancers d'ailleurs liés à des microbes, des virus vraiment opportunistes. Et là, comme vous relatiez, la partie célèbre, celle qu'on a vue par des gens célèbres à travers des films comme Philadelphia, Les Nuits Fauves, enfin un certain nombre de... Et c'est ça ce qu'on appelle le sida.
Élise El Camino, je voyais réagir quand le docteur Gallien commençait à dire qu'il n'y a pas de symptômes du VIH.
Et oui, parce qu'effectivement, c'est un peu le souci, c'est que ça, les gens qui sont porteurs du virus ne le savent pas. Et donc, à ce moment-là, la seule façon de le savoir, c'est de se faire dépister. Le dépistage, c'est vraiment le message essentiel qu'on peut faire passer ce matin. C'est que, si on parle de la France, on a à peu près 200 000 personnes qui portent le virus en France, mais il y a entre 20 et 25 000 personnes qui ne le savent pas. Et donc, le but, c'est de proposer au maximum le dépistage pour savoir Car une fois qu'on sait qu'on a le VIH, on peut se faire traiter.
Une question qui nous arrive par notre WhatsApp, le 06 72 10 98 60. Une question d'un auditeur qui nous demande où se trouve le VIH dans le corps, docteur.
Alors, où il se trouve ? Alors déjà, il se trouve quand on n'est pas traité. Parce que quand on est traité, il n'est pas là. En tout cas, on ne le détecte pas et on ne détecte aucune de forme active. Voilà. Donc, chez les personnes qui ne sont pas traitées et qui, a fortiori, ne connaissent pas leur séropositivité, parce que sinon, ils seraient traités, on trouve le virus dans le sang. Il se trouve au niveau des différents organes, parce qu'en fait, il va se nicher à l'intérieur de ces fameuses cellules immunitaires, et notamment les lymphocytes CD4, qui sont partout dans le corps. Et ensuite, dans ce qui peut transmettre le virus, on le trouve dans les sécrétions génitales, donc dans le sperme, dans les sécrétions vaginales, et dans tout ce qui est plaies ou éventuellement ce qu'on appelle des ulcérations, parfois associés à d'autres maladies sexuellement transmissibles.
On l'entendait dans le Flash Info qui nous précède, 30% des jeunes pensent qu'on peut attraper le sida en embrassant quelqu'un qui est malade. 21% pensent que seuls les homosexuels peuvent être atteints. Comment on déconstruit ces clichés ?
En faisant beaucoup de messages, en essayant justement d'aller au plus près des populations pour leur expliquer la réalité de l'épidémie. Effectivement, on n'attrape pas le VIH et le sida en embrassant qui que ce soit, c'est absolument faux. Donc on espère quand même qu'en 2023, cette pensée va être réelle. Et concernant les populations clés, on peut dire aujourd'hui que l'épidémie est quand même aussi forte chez les hétérosexuels que chez les homosexuels. Mmh. Donc c'est pareil, ce sont des chiffres, évidemment c'est des choses qu'on pense, la réalité elle est quand même différente, sachant que voilà, en 2023 c'est 51 à 53% des personnes qui sont contaminées par le VIH qui sont hétérosexuelles.
Donc, on y répond une bonne fois pour toutes. Quel est le risque de transmission du VIH en embrassant sur la bouche ou avec la langue, en se faisant un piercing ou un tatouage, ou en partageant un rasoir avec une personne infectée ?
Le risque, il est nul, d'accord ? Et le risque est, et ça c'est vraiment majeur de dire ça, que chez quelqu'un qui est sous traitement, qui est contrôlé, d'accord ? Le risque, il est nul, et y compris pour les rapports sexuels. D'accord, et des rapports sexuels non protégés. Et moi, en consultation, j'ai un certain nombre de couples où l'un des deux partenaires est séropositif et l'autre est séronégatif, qui veulent avoir des enfants. Eh bien, à partir du moment où le partenaire est contrôlé, il n'y a pas besoin de mettre de protection et ils peuvent avoir tout à fait des enfants naturellement, sans passer par des recours, voilà, et y compris dans les couples homosexuels, si le partenaire est contrôlé, il n'y aura aucun risque de transmission à son partenaire séronégatif.
Ça, c'est une information capitale.
Voilà. Oui, allez-y. Je reviens juste et je complète par rapport aux populations à risque. Aujourd'hui, il y a dans le monde plus d'hétérosexuels qui vivent avec le VIH que d'homosexuels. Mmh. Voilà. Et deuxièmement, il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes, d'accord, infectées par le VIH. Et ça s'explique parce que les femmes sont plus réceptives au VIH. Voilà, enfin, plus réceptives. Il n'y a pas de différence de réceptivité, mais les rapports sexuels font que le temps de contact de ce fluide infecté est plus long sur une surface plus importante, voilà, et qu'en plus, souvent, elles sont moins bien dépistées et moins bien soignées dans le monde. Et je ne sais pas si on pourra en parler, mais c'est une maladie de l'inégalité à plein de niveaux.
Suzette Fernandez.
Oui, et en fait, oui, je voulais revenir sur ça, parce que déjà, dans plusieurs maladies, nous ne sommes pas égaux, mais dans le VIH, c'est encore plus vrai, puisque c'est quand même une maladie qui ne favorise pas qu'on explique qu'on n'était pas soigné de la même façon si on est en Europe ou même en Amérique du Sud. On n'est pas soigné de la même façon. On n'a pas les mêmes accès aux soins. Et justement, je pense que le sida, en plus, comme c'est une maladie quand même encore discriminatoire, c'est encore plus difficile à faire ce diagnostic.
Alors, vous avez tout à fait raison. C'est une maladie d'inégalité parce que bah déjà, quand on regarde les chiffres, la majeure partie des personnes qui vivent avec le VIH sont dans les pays, ce qu'on appelle les pays du Sud, donc les pays en voie de développement, et essentiellement en Afrique subsaharienne. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de dépistage, peu accès au traitement, et comme on sait maintenant que quand on est traité, on transmet pas le virus. Si fin 2023, pour Noël, tout le monde pouvait dépister partout dans le monde son VIH et être immédiatement sous traitement et être contrôlé dans quelques mois, donc en quelques années, il n'y aurait plus du VIH. Vous voyez, ça disparaîtrait. Et ça a déjà été modélisé très tôt. Donc il y a une inégalité d'accès aux soins, une inégalité de dépistage. Et c'est vrai que, on le disait, le dépistage, c'est fondamental. D'accord ? Il y a des inégalités... je dirais physiologique de bah, je suis potentiellement plus à risque ou plus réceptive au VIH en fonction de qui je suis. Mm-hmm. Donc oui, c'est une maladie de l'inégalité et que l'accès aux soins, le dépistage est différent si on habite en Afrique, en Amérique du Sud, et c'est variable en fonction des pays parce que tous les pays sont pas pareils, on va pas uniformiser tout. Également en Europe, il y a des pays où il y a plus de possibilités que d'autres avec des facteurs culturels, politiques, religieux qui peuvent changer. Pour l'aspect discriminatoire, je vais peut-être laisser la parole à Élise, mais oui, c'est aussi un...
Effectivement, les discriminations font le lit de l'épidémie, ça c'est clair. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport aux personnes qui ont le VIH, qui viennent souvent d'Afrique subsaharienne. En vrai, je tiens quand même à préciser qu'une grande partie de la population en France qui devient séropositive se contamine en France. Et c'est la précarité qui fait que les personnes se contaminent. Mmh. C'est ces inégalités, c'est ces discriminations qui favorisent, qui font que les personnes se contaminent. Ici, voilà. Effectivement, des discriminations multiples. Pourquoi ? Parce que quand on peut avoir des pratiques à risque, on peut se cacher parce qu'on a une orientation sexuelle qui n'est pas celle qui est acceptée partout, que ce soit en France ou dans d'autres pays. C'est des gens qui vont avoir un accès aux soins qui sera de toute façon plus faible. Et donc, le projet de aide, c'est quand même d'aller auprès des populations qui sont les plus éloignées du soin et les populations les plus exposées au VIH. Pour rappel quand même, donc on en a parlé, effectivement, il y a les personnes qui... enfin, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, mmh. Il y a les personnes qui ont connu un parcours migratoire, il y a les travailleurs et les travailleuses du sexe, les personnes qui sont consommatrices de produits psychoactifs. Voilà, donc l'idée de aide, c'est vraiment d'aller au plus près des populations, au plus proche, de faire partie en fait de leur environnement pour pouvoir leur proposer un dépistage. Et derrière, si on trouve un résultat positif, que ce soit au VIH, mais aussi pour l'hépatite B ou l'hépatite C, et bientôt la syphilis également, on propose un accompagnement. Et c'est ça qui compte. Parce que finalement, le VIH, c'est aussi au cœur de la santé sexuelle, mais c'est aussi de la santé globale. Et donc, en fait, ça fait qu'il faut prendre en compte énormément de paramètres pour pouvoir accompagner les personnes au mieux dans la mise aux soins.
Et nous allons continuer à parler de tout cela dans un instant, mais pour le moment, marquez une courte pause. Restez branchés. Suzette Fernandez, vous aviez une question.
Oui, alors moi j'avais une question sur le dépistage. Tout à l'heure, on a parlé des premiers symptômes. Alors vous avez parlé, professeur, de diarrhée, de mal de gorge. C'est bien ça, enfin, de symptômes qui peuvent être attribués à toutes sortes de...
Non spécifiques, effectivement.
Non spécifiques. Donc, comment le médecin va faire la démarche de proposer un dépistage ?
Déjà, il faut y penser.
Oui.
Eh bien, pour penser à qui dépister, il faut se rappeler, je pensais bien, de dire comment on s'infecte aujourd'hui par le VIH. Donc, la transmission, elle est quasiment essentiellement par voie sexuelle, que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, avec alors le risque est variable en fonction des types de pratiques sexuelles. Il est surtout pour les rapports vaginaux ou anaux non protégés. Le risque de transmission lors des fellations, il est très très faible. Voilà. Donc c'est ça. Et je rappelle et je redis que les baisers, y compris les baisers avec la langue, ne transmettent pas le virus. Les caresses ne transmettent pas le virus. Donc on dépiste qui ? Bah, toute personne. Alors ça c'est le principalement. Les autres modes de transmission, c'est ce qu'on appelle materno-fœtal, de la mère à l'enfant. La transmission du virus, elle se fait très rarement à la fin de la grossesse, troisième trimestre de grossesse, surtout lors de l'accouchement et potentiellement quand les femmes allaitent, mais c'est contre-indiqué strictement, lors de l'allaitement. Ça, c'est très, très, très anecdotique par rapport à la voie sexuelle. Et puis, il y avait eu la toxicomanie avec le partage de seringues, qui, même chose, aujourd'hui, grâce à toutes les politiques de usage unique, pas de partage, salle de shoot, enfin, tout ce qui fait que de prévention, en fait, des complications, ça n'arrive plus. Alors, les indications, c'est quoi ? C'est toute personne potentiellement exposée, d'accord, avec un partenaire dont on ne connaît pas la séropositivité. Ces recommandations sont bien écrites, hein, et ont été documentées par la Haute Autorité de Santé. Donc, toute personne dans sa vie peut bénéficier et doit bénéficier d'un test pour le VIH. En particulier, d'accord, donc ça c'est le dépistage universel. Et puis, il y a des situations. Alors, il y a des situations où on a des symptômes qui seraient évocateurs du VIH. Donc voilà, un syndrome viral, une grippe, d'accord, une diarrhée ou des signes qui évoqueraient le médecin, ce qu'on appelait la primo-infection. À l'inverse, des signes de maladie du sida, d'accord, mais ça c'est trop tard. Enfin, en tout cas, c'est plus de la. Il aurait fallu dépister avant. Dans des cas où il y a eu évidemment exposition sexuelle, donc les grossesses, d'accord. Et d'autant plus que quand on traite des femmes enceintes qui vivent avec le virus, elles ne transmettent plus le virus. Ça, c'est vrai pour tout. Donc, on redit que toute personne sous traitement n'est plus contaminante et ne transmet plus le virus, que ce soit par voie sexuelle, que ce soit à son bébé, on est non contaminant. Donc, il y a les interruptions thérapeutiques de grossesse ou les interruptions, les IVG, voilà. Il suffit juste d'un rapport sexuel pour se contaminer, les viols, et puis certaines populations pour lesquelles ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de personnes infectées, est plus importante. Et ça, ce sont les personnes migrantes, en particulier d'Afrique subsaharienne, les personnes qui vivent dans les territoires français d'outre-mer, où on sait qu'il y a une quantité plus importante, les travailleurs du sexe, les toxicomanes, voilà, et les personnes qui vivent, les personnes emprisonnées, voilà. Donc, dans ce cas-là, il faut le faire, et il faut y penser. Et très souvent, malheureusement, on voit à l'hôpital des gens qui arrivent avec des maladies évoluées, d'accord ? Et quand on reprend rétrospectivement dans ce qu'ils nous racontent le parcours de soins, ou est-ce qu'il y aurait eu une opportunité à ce moment-là, selon les recommandations que je vous ai données, de faire, et bien dans plus la majorité des cas, on s'aperçoit qu'il y a eu une opportunité manquée de dépistage, d'accord ? Et donc, je reprends ce que dit Élise, dépister, et c'est pas faute qu'il y ait dans le métro, à la radio, et on vous remercie de faire ce type d'émission, des appels en disant, ça peut être tout le monde, donc dépistez-vous.
Élise Del Camino.
Pour abonder dans ce sens-là, effectivement, le dépistage, c'est la première arme contre le VIH. Et l'idée, c'est de pouvoir aller se dépister dans l'endroit qui nous convient. Donc, évidemment, quand on est suivi par un médecin traitant, qu'on s'entend bien, qu'on peut aborder la question de la santé sexuelle avec lui, il peut nous faire une ordonnance, et puis on va au labo et on fait nos tests. Il existe aussi un dispositif actuellement du labo sans ordo. Donc, on peut se présenter si on a, si on est couvert par la sécurité sociale, on peut avoir accès à un test VIH, comme ça, dans son laboratoire de quartier. Mais il y a également des endroits spécifiques où on parle plutôt santé sexuelle qui vont être les CEGID, donc là qui sont rattachés à des centres hospitaliers. Et puis, on a aussi les associations communautaires dont Aide fait partie. Et donc nous, au sein de Aide, il y a quand même 72 lieux en France et en Outre-mer. On est répartis et on peut accueillir les personnes et n'importe qui franchit la porte de Aide peut avoir un dépistage. Alors, on va parler de TROD, donc c'est des tests rapides d'orientation diagnostique. Mm-hmm. Donc, on va prendre un tout petit peu de sang au bout du doigt de la personne, on la met avec un révélateur, et au bout de 15 minutes, la personne a son résultat. Si on voit que c'est un test positif, alors il y aura confirmation, évidemment, dans un laboratoire ou dans un CEGID, et la personne sera accompagnée à la mise aux soins.
Qu'est-ce qu'un CEGID ?
Alors, c'est ce qui a remplacé les centres de dépistage anonyme et gratuit, les CDAG, et c'est un centre d'intervention et de dépistage en santé sexuelle pour les infections par le VIH, les hépatites et les autres santé sexuelle. Alors, c'est vraiment des centres...
Les autres IST,
infections sexuellement transmissibles. Il y a d'autres... Alors, les CEGID, c'est très orienté, effectivement, santé sexuelle, infections sexuellement transmissibles. Il y a d'autres structures aussi, donc là on est en Val-de-Marne, mais il y en a partout, qu'on appelle qui étaient avant les centres de planification familiale et qui maintenant s'appellent centres de santé sexuelle, d'accord, où il peut également y avoir de la même manière des centres de dépistage, et dans ces centres de santé sexuelle, outre le dépistage, il y a des conseillères conjugales, il y a possibilité d'avoir accès à de la contraception. Alors, c'est vrai que c'est un peu en mouvement, il y aura peut-être une restructuration sur des centres de santé sexuelle, parce qu'on s'aperçoit que, en termes, je dirais, de prévention et en termes de messages, eh bien, on reste quand même suboptimal, sous-optimal par rapport à ce qui ferait que les gens soient en bonne santé et en bonne santé sexuelle. Et ce n'est pas que les IST, hein, la santé sexuelle, c'est pas l'absence d'infection, c'est avoir voilà, une sexualité qui soit épanouie, qui soit possible, avec une maîtrise des naissances si on veut, sans discrimination, et on a tous les outils pour le faire.
On pourrait envisager dans le futur un dépistage systématique à un certain âge de la vie, soit après quelques années de maturité sexuelle ou de vie sexuelle, ou fin d'adolescence.
Un dépistage obligatoire.
Obligatoire, puisqu'il existe déjà maintenant des dépistages que l'on fait automatiquement sur certains types de personnes.
Alors, on peut l'imaginer, mais la question c'est, est-ce que c'est effectif ? Et je crois que la réponse, c'est pas forcément. Parce que on n'a pas les mêmes besoins de dépistage quand on est marié ou en concubinage ou en couple avec le même partenaire pendant 20 ans, d'accord ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut essayer de catégoriser, on ne va pas dire, voilà, comme les vaccins, à 20 ans, 40 ans, 65 ans, voilà, je vais faire un dépistage. Certes, ça donnerait un moment donné, mais ce qui est très important, c'est de pouvoir être dépisté le plus tôt possible pour traiter le plus tôt. Et donc, on n'a pas les mêmes expositions. D'accord ? Et donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu compliqué, et je crois que, et les recommandations, je dirais, qui sont actuellement en vigueur, témoignent plutôt de ça. C'est-à-dire que oui, il faut le faire à un moment donné, d'accord ? Et on le fait de manière systématique dans les populations à risque. D'accord ? Ça, c'est important. Mais, par exemple, à l'hôpital, même quand les personnes viennent pour quelque chose qui n'est pas forcément lié au virus VIH, c'est une entrée dans le système de soins. Le fait d'avoir cette information est importante. D'accord ? Donc on pousse, nous, à ce qu'il y ait des moments qui ne soient pas forcément en population générale pour les 18 ans, 40 ans, 65 ans, un test pour le VIH. Déjà, si on suivait mieux les recommandations et on y pensait plus, Déjà, vers l'objectif actuel, on serait, j'irais bien meilleur.
Je vous voyais réagir tout à l'heure, Elise Del Camino.
Oui, c'était sûr, par rapport à... Bon, c'est vrai qu'on n'est pas tous exposés de la même façon, mais le mariage ne protège quand même pas du VIH. Donc voilà, ça n'empêche pas un petit dépistage de temps en temps.
Là, non, le mariage ne dépiste pas. Non, quand je dis mariage, c'est les liens sacrés du mariage. Ce que je veux dire, c'est que...
C'est la connaissance du partenaire sexuel.
Voilà, c'est d'avoir le même partenaire. Et voilà, à partir du moment où il y a un autre partenaire... ou dans le couple, il y a quelqu'un qui a voilà, une aventure à côté, là, il faut dépister. C'est ça ce que je voulais dire.
Oui, oui.
Suzette, vous vouliez dire alors, quelque chose, peut-être.
Oui, moi, je voulais revenir encore sur ce dépistage automatique, parce que je ne m'y conforme pas. C'est-à-dire que quand on fait des dépistages automatiques pour certaines maladies, on reçoit notre petit papier de la Sécu, ça y est, j'ai dépassé 50 ans, il va falloir que je fasse ce dépistage. Là, il y a sûrement d'autres critères, hein. Ça sera sûrement pas le critère de l'âge, mais plutôt de l'activité sexuelle ou
de l'exposition,
au sens large. Je maintiens qu'on pourrait peut-être travailler dans ce sens-là, essayer de voir au moins, je pense qu'on pourrait couvrir une certaine population qui n'est peut-être pas couverte par le dépistage actuellement.
Oui, vous avez raison. Alors déjà, bon, il faut savoir que l'infection par le VIH est une infection, une maladie infectieuse qui est transmise, d'accord ? Spontanément, sans exposition, on n'attrape pas, le virus. Quand vous faites allusion à des dépistages de type cancer, cancer du sein ou cancer colorectal, à partir d'un certain âge, on reçoit de la sécu, une espèce de petit truc en disant, voilà, vous allez garder vos selles, on va regarder s'il y a du sang. Le cancer est une maladie un peu du vieillissement, donc c'est pas la même chose, ça peut survenir sans exposition. Je vous le dirais, alors je suis pas persuadé, mais je suis quasiment certain que ce dépistage systématique a été modélisé pour savoir si c'était suffisamment efficace. Je crois que si on dépistait tout le monde à tel âge ou tel âge, finalement, le nombre de tests qui seraient demandés par rapport au pourcentage de positifs n'est pas suffisamment rentable que de l'orienter dans certaines conditions, comme je vous ai signalé. Voilà.
Oui, en fait, proposer ce dépistage systématique, c'est, je suis pas persuadée non plus que ce soit une solution, dans le sens où, en fait, il faut vraiment que les gens soient acteurs de leur santé et qu'ils choisissent d'aller se faire dépister en fonction de leurs propres risques. Et finalement, au sein de Aide, quand on fait des entretiens de dépistage, c'est un entretien. Et donc là, à ce moment-là, on prend le temps de discuter avec les personnes, de vraiment voir et de cheminer avec eux, de comprendre quels sont, enfin que la personne comprenne les risques qu'elle prend, et par rapport à ça, réagir et pouvoir utiliser les moyens de prévention qui lui sont nécessaires. Pour moi, et au sein d'Aide, c'est vraiment cette idée-là que la personne est actrice et qu'elle va choisir d'aller se faire dépister. L'idée, c'est que, justement, au grand public, on fasse beaucoup d'informations et d'inciter au dépistage. Voilà, enfin, ça reste ma position sur le dépistage systématique.
Et nous allons pour le moment marquer une courte pause. On revient dans 6 minutes.
Alpha 10-13 avec couvert thermique. Votre spécialiste chauffage et climatisation.
Radio Alpha. Avons-nous aujourd'hui tous les outils, assez d'outils? Suzette Fernandez, Elise Del Camino et Sébastien Gallien, avons-nous assez d'outils pour arrêter la pandémie aujourd'hui?
Ben, en France, oui, parce qu'on a un système de soins performant, on a un accès potentiel à des médicaments qui sont efficaces, bien tolérés et qui sont gratuits. Voilà. Et donc, je vous disais un peu au début de l'émission, si aujourd'hui toutes les personnes qui connaissent leur séropositivité étaient dépistées, traitées, tout le monde irait bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'on est en vie dans un monde où les gens voyagent, on vit dans un monde où la majeure partie des personnes vivent dans des pays où ils n'ont pas accès à des traitements.
Oui, c'est 9 millions de personnes dans le monde qui vivent avec le virus et qui n'ont pas de traitement.
Oui, alors il y a à peu près un peu plus de 38 millions de personnes qui vivent dans le monde avec le VIH, la moitié qui est en Afrique subsaharienne. Mais l'envers du miroir, c'est que l'autre petite moitié n'est pas traitée.
Élise El Camino, c'est quoi une vie avec le sida ?
En France, une vie avec le VIH, c'est avoir la même espérance de vie que tout à chacun, c'est avoir un traitement journalier. Alors, qui a parfois des effets secondaires, mais je dirais que dans ces dernières années, ça s'est vraiment amenuisé et la vie peut être douce et agréable. En revanche, ce qui peine les personnes aujourd'hui qui vivent avec le VIH, c'est toutes les discriminations et la sérophobie dont ils peuvent être victimes. Et donc là, c'est peut-être l'occasion de rappeler que voilà, vivre avec le VIH, c'est vivre. Et on est une personne comme une autre. Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir travailler, avoir accès à une vie affective épanouie. Enfin, tout ce qui fait les petits bonheurs de la vie, n'est-ce pas ? Donc voilà, rappeler aujourd'hui que vivre avec le VIH, c'est vivre. Je pense que c'est vraiment important.
Mmh. Quelle est la place du politique dans cette lutte ?
Ben, le politique, c'est celui qui va fixer les orientations de santé publique, les orientations de dépistage, les orientations de financement de la santé. On entend par exemple actuellement que l'AME, donc l'aide médicale d'État, qui permet à un certain nombre de personnes qui vivent avec le VIH, de pouvoir être traités. Retirer l'AME, par exemple, qui est un geste politique très fort, parce que ça coûte quasiment rien à la sécurité sociale par rapport à l'ensemble, ça veut dire potentiellement mettre des gens malades, non seulement qui, de toute façon, retourneront dans le système de soins et seront traités à un stade très avancé, donc ça coûtera plus cher à l'hôpital, et en plus, potentiellement, n'auront plus accès au dépistage, plus au traitement, et pourront transmettre leur maladie. Ça, par exemple, typiquement, c'est du politique. Donc le politique a un rôle fondamental dans les politiques de santé publique, notamment pour l'infection par le VIH.
Et quelque chose qu'il est important ici de rappeler, le dépistage, c'est au moins une fois dans sa vie.
Le dépistage, c'est au moins une fois dans sa vie, oui, mais la majorité des personnes auront eu au moins une fois un rapport sexuel dans sa vie, oui. Par contre, ça veut dire qu'on fait des dépistages à chaque fois que j'ai potentiellement une maladie qui peut être en rapport avec le virus ou que je suis exposé. Voilà.
Une auditrice nous demande maintenant, peut-on guérir du VIH ?
Alors, je vais répondre, en théorie oui, et il y a des cas de guérison. Et quand on parle de guérison, en fait, c'est on ne détecte plus du tout aucune trace du virus dans l'organisme.
Mmh.
Donc ça, oui, ça s'est fait de manière absolument exceptionnelle chez des personnes qui ont bénéficié pour d'autres maladies, des maladies graves et bien plus graves que le VIH, des cancers et des leucémies, des greffes de moelle, avec des personnes qui dont le donneur avait des cellules de sang qui rendaient leurs cellules imperméables au virus. D'accord ? Je ne rentre pas dans les détails, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, oui.
Donc ça, c'est sur le papier, mais
c'est sur le papier. En pratique, aujourd'hui, on ne guérit pas du VIH, on vit avec le VIH. D'ailleurs, c'est intéressant, avant on disait on est malade du VIH, après on est devenu infecté par le VIH, maintenant on dit on vit avec le VIH, parce que tout le monde vit avec des milliards de microbes, d'accord ? Pour celui-là, on a besoin d'un traitement. Quand on a son traitement, on vit très bien, et on n'est pas malade et on ne transmet plus.
J'ai vu hier, moi, sur les sur un site d'information que un sixième patient avait été reconnu guéri du VIH, donc sans trace détectable de virus dans le sang. Donc ça en fait que 6, je dirais, que.
Alors ça fait 6 qui sont documentés tels quels, d'accord ? Parce que il faut savoir aussi que au-delà des personnes chez qui on a contrôlé le virus parce qu'ils ont eu des greffes de moelle, il y a quand même un petit pourcent, 1%, un peu moins de 1%, des personnes qui, une fois qu'ils ont le virus en eux, arrivent à le contrôler spontanément sans traitement. D'accord ? Et parmi ceux-là, Il y en a chez qui on ne détectait quasiment plus de virus. Plein d'histoires compliquées, virologiques, voilà, des espèces de petits chanceux qui font avec le virus ce qu'on fait avec beaucoup de nos microbes. Hein. Et il faut savoir, par exemple, que quand on avait fait la varicelle quand on était petit, le virus de la varicelle n'a pas guéri. Hein. Il vit dans notre corps toute la vie et il revient pas ou il revient sous la forme d'un zona, voilà. Parce qu'on a un système immunitaire qui fonctionne. Notre système immunitaire à nous, chez 99% des gens, n'arrivent pas à contrôler le virus. Voilà. Donc, c'est 6 qui sont montrés comme ça. Voilà. Il y en a peut-être certains. Mais en tout cas, pour les personnes aujourd'hui, et c'est la majorité des gens qui, sans traitement, évolueraient vers le sida et mourraient, on n'a pas moyen de leur enlever le virus. Par contre, avec leur trithérapie, avec leur traitement, on le contrôle. Et si on arrête le traitement, le virus revient.
Et il nous reste maintenant une minute, Suzette Fernandez, pour nous parler du Téléthon.
Oui, alors moi je voulais vous parler du Téléthon qui va avoir une autre saveur cette année, qui va être un peu différent. Alors vous savez que nous avons perdu un ami il y a quelques semaines, un ami très cher, qui José Lopes, qui était le photographe attitré de la communauté. Alors nous voulions lui rendre hommage. José Lopes nous a fait le plaisir d'être avec nous lors du premier Téléthon présentiel avec notre association Les Hirondelles. Et il était là toute la nuit avec nous et du fait, ce jour-là, nous avions fait 30, tricoté 30 bonnets en 30 heures pour les 30 ans du Téléthon. Et cette année, nous allons refaire la même chose, c'est-à-dire que nous ne ferons pas les 30 bonnets hein, en 30 heures, parce qu'on a pris quelques années aussi, mais nous allons avoir des bonnets à disposition donc des auditeurs qui voudront les acheter ou les réserver. Avec une étiquette spéciale. L'étiquette sera le logo de Radio Alpha, José Lopes, Bonneton, Bonneton de Téléthon. Et en fait, nous voulons rendre hommage à José. Nous commencerons vers 16h, hein, le vendredi 8. Nous allons lui rendre hommage avec des témoignages d'amis qui l'ont bien connu, qui ont fait... je suis en train de voir, pour comme il a fait le Paris-Dakar, pour avoir également des personnes qui l'ont fait avec lui. Et j'ai trouvé très important de lui rendre cet hommage. Nous allons bien sûr avoir des malades et des familles de malades du Téléthon, comme d'habitude. Et nous allons le terminer avec une soirée festive. Odette aura, pendant son émission de Fado, va inviter des artistes donc de la communauté qui l'ont bien connu également. Donc soyez au rendez-vous, s'il vous plaît. Réservez vos bonnets, il n'y en aura pas beaucoup. On prévoit une 10-12 bonnets. Donc réservez-les pour l'achat de ces bonnets sera versé intégralement au Téléthon. Vous pourrez le verser vous directement à travers notre association. Vous faites un chèque à l'ordre du Téléthon. Comme ça, vous pourrez avoir également un reçu fiscal pour vos impôts.
Et c'est une très belle initiative que Radio Alpha va accompagner. Je suis maintenant obligé de boucler cette séquence et je remercie évidemment le docteur et professeur Sébastien Gallien, chef de service de maladies infectieuses au CHU Henri Mondor à Créteil. Je remercie Élise Del Camino, vous êtes à la coordination de aide, plus précisément dans le pôle Est Île-de-France. Et merci évidemment Suzette Fernandez, merci à vous d'être venue ici nous parler du sida, du VIH dans cette journée mondiale de la lutte contre le sida.
Merci à toi Didier.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir, merci.
Alpha 10-13 avec couvert thermique, votre spécialiste chauffage et climatisation.